Les prochains 577 députés seront élus aux législatives des 11 et 17 juin. En Loire-Atlantique, on compte 10 circonscriptions et 156 candidats déclarés. La troisième circonscription englobe notamment le nord-ouest de Nantes, Saint-Herblain, Saint-Étienne-de-Montluc, Couëron et Indre, soit environ 123 000 habitants. C'est sur ce territoire que sont implantés les studios de Jet. Acteur de son territoire et scrutateur attentif, Jet FM se fait donc l'écho des 18 protagonistes candidats qui s'affrontent sur ce territoire historiquement favorable au PS depuis 1978. De 1993 à 2012, c'est Jean-Marc Ayrault qui règne, jusqu'à ce qu'il quitte la fonction pour entrer au gouvernement. Dans un contexte national incertain où les cartes sont rebattues, les prochaines élections législatives des 11 et 17 juin s'inscriront-elles dans cette tradition? En attendant la réponse, Jet s'empare du débat public en donnant la parole aux 18 candidats de la 3e circonscription de Loire-Atlantique, avec autant d'interviews de 20 minutes chacune.
Nous sommes avec Robin Salcroix, candidat Parti communiste Front de Gauche pour la 3e circonscription de Loire-Atlantique. Robin Salcroix, vous avez 26 ans, vous êtes chargé de communication, vous êtes l'un ou le plus jeune élu de la ville de Nantes, vous nous direz précisément ce qu'il en est, délégué à la vie étudiante et au logement des jeunes, élu de quartier d'Hervalières-Zola. En tant que membre du Parti communiste français, vous faites partie de la majorité municipale et vous êtes également conseiller de Nantes Métropole, membre de la commission environnement et de la commission attractivité et développement. Bienvenue à Jet. Première question de cette interview, quelles compétences avez-vous aujourd'hui pour être député de la 3e circonscription ?
Bonjour à vous, et puis pour commencer, je vous remercie évidemment de cette invitation. Pour revenir à cette question essentielle, je pense qu'effectivement, mon expérience à la fois professionnelle, mon expérience militante et syndicale forme justement ce socle de compétences que j'ai pour briguer la mandature à la députation lors des élections législatives du 11 et 18 juin 2017. Tout d'abord, mon expérience professionnelle, parce que moi je fais partie, à mon avis, d'un de ces rares candidats ou candidates qui a connu les galères du quotidien, les petits boulots en intérim, les contrats précaires, les difficultés à joindre les debout, et je pense que ça aussi, être en connexion et relié à la réalité, ça compte beaucoup quand on souhaite représenter les Françaises et les Français aux plus grandes responsabilités. Et puis évidemment, mon expérience militante, mon expérience syndicale et politique que j'ai forgée dans les luttes sociales et syndicales, je pense évidemment à mes premières manifestations, mes premières mobilisations à l'époque du contrat première embauche lorsque j'étais au lycée. Et puis pour terminer, évidemment, mon expérience politique. Vous l'avez rappelé, en tant que conseiller municipal, conseiller métropolitain, je suis certes jeune, mais j'ai en tout cas la conviction de bien maîtriser mes dossiers, de connaître mon territoire, notamment en tant qu'élu du quartier d'Hervalières-Zola. Et je souhaite justement mettre à profit l'ensemble de ces compétences et ma combativité, ma détermination au service des plus fragiles, des Françaises et des Français, et puis des habitants de cette circonscription.
Pour quelles priorités, quels sont les axes forts de votre action en tant que potentiel député?
Je pense que notre société est profondément malade des inégalités aujourd'hui. J'en fais pour le coup mon axe de bataille principal, car je pense qu'une fois qu'on aura résolu cette problématique-là, effectivement, nous pourrons lutter contre le chômage, les inégalités et relancer les services publics. Juste un ou deux chiffres, mais aujourd'hui, la part consacrée aux dividendes en France a triplé depuis les années 80. Ça veut dire très concrètement qu'un salarié travaillait une semaine dans les années 80 pour remplir les poches des actionnaires, et aujourd'hui c'est entre 3 et 4 semaines. On l'a vu lors de la campagne des élections présidentielles, on a vu les candidats se précipiter au chevet des salariés de Whirlpool qui allaient perdre leur emploi. Je pense évidemment à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Le 17 avril 2017, la direction de Whirlpool a décidé d'augmenter ses dividendes trimestriels de 10%, alors que plus de 500 familles allaient se retrouver sur le carreau, notamment à Amiens. Donc je pense qu'il faut répondre à cette problématique des inégalités et de la répartition des richesses dans notre pays si on veut prendre justement la problématique par le bon bout. Et d'ailleurs, je voulais souligner une action, une initiative bien regrettable du gouvernement Macron et de la présidence Macron. Il y a eu une proposition, il devait y avoir une réunion au niveau de l'Union européenne pour la mise en place d'une taxe sur les transactions financières qui a été repoussée, réunion qui a été repoussée par Emmanuel Macron et les délégués français justement au niveau de la Commission européenne. Cette taxe sur les transactions financières aurait rapporté la bagatelle de 2 milliards d'euros au budget. Je pense que c'est un très mauvais signe qui est envoyé signée par la nouvelle présidence et le nouveau gouvernement. C'est pour ça que dès le 11 juin, il faut envoyer un signal fort et se doter de députés combatifs. Et puis enfin, au-delà d'ailleurs, et principalement au-delà des sujets nationaux, de cette grande question qui est devant nous, de cette loi du profit, cette libéralisation. Moi, je suis aussi un député de terrain qui suis attentif justement aux problématiques de mon territoire. Notre territoire, notre troisième circonscription, elle est dotée d'atouts économiques et industriels très importants. Je pense à la centrale de Cordemais, je pense aux zones industrielles de Saint-Herblain, des Hauts-de-Couëron, je pense également à ArcelorMittal. Toutes ces zones industrielles, tous ces sites, c'est des milliers d'emplois qui existent derrière. J'ai eu l'occasion de rencontrer nombre de salariés et je voulais juste faire le focus peut-être avant d'avancer sur d'autres questions, notamment sur la question de la centrale de Cordemais, qui est une centrale à charbon que le gouvernement précédent a souhaité fermer. Fermer non pour des raisons environnementales, parce que cela nous aurait amené à importer l'électricité elle-même produite au charbon venant d'Allemagne, mais pour des raisons politiciennes, avec des calculs pour le coup très politiciens en direction notamment des écologistes. Il y a un projet industriel innovant qui est mis sur la table par la direction de la centrale, par les salariés et les syndicats de la centrale, mais aussi du port et de la raffinerie qui permettrait de pérenniser évidemment la centrale de Cordemais, ce que nous réclamons, mais aussi de développer une filière nouvelle de production d'électricité dans ce territoire, une filière de production d'électricité notamment toujours moins émettrice de CO2. Donc je pense qu'il faut aussi être attentif à ces véritables projets qui sont structurants pour notre territoire. Je veux aussi être le porte-parole de ces sujets-là pour la troisième circonscription. Et puis si j'ai encore un petit peu de temps, je voulais évoquer également l'avenir d'ArcelorMittal à Indre, à Bassindre. En 2012, il y a eu un accord avec le gouvernement et Mittal où on a déshabillé le site de Bassindre pour transférer un certain nombre d'activités sur le site de Florange. Cet accord arrive à son terme en 2017 et désormais il faut engager un nouveau bras de fer. On envoie un signal, nous, en tant que candidats communistes, avec aussi, je sais, l'attention des salariés sur ce sujet-là, pour qu'un nouvel accord ait lieu, un accord justement qui permette de pérenniser à la fois l'emploi sur le site, qui permette de nouvelles embauches et qui permette aussi et surtout, ce dont est malade le site de Bassindre, de relancer les investissements pour justement permettre le développement de l'emploi sur notre territoire. Bon nombre de sujets existe. J'ai également une suppléante, Isabelle Huchet, qui est impliquée sur le quartier des Dervalières, qui est également aide-soignante depuis de nombreuses années. J'ai l'occasion de discuter régulièrement avec elle, de rencontrer les salariés des services publics de santé. Je sais à quel point le service public de la santé est malade pour le coup, à la fois des conditions de travail de ses agents, que ce soit dans le public ou dans le privé, et du coup qui entraîne des dégradations au niveau des soins pour malheureusement les patients. Je pense qu'il faut un vrai choc de investissement, à l'inverse de ce qui a été mené lors du précédent quinquennat, avec notamment un investissement fort dans nos services publics et un investissement fort de nos collectivités. C'est un certain nombre d'axes de propositions que je porte justement dans le cadre de cette campagne législative. Et puis, si j'ai encore un tout petit peu de temps, il y a des mesures d'urgence à mettre en œuvre. Je pense évidemment au retrait de la loi El Khomri, je pense à l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Whirlpool. C'est un exemple très parlant. Je pense que dans notre pays, nous avons encore besoin d'électroménager. Donc il faut effectivement mettre des règles, il faut réglementer les importations avec des critères sociaux et environnementaux et il faut mettre un terme à cette loi du profit, malheureusement, qui rend malade notre société. Donc voilà, moi, un certain nombre de sujets que je souhaite porter lors de ces élections législatives pour le bien du territoire et pour le bien du pays, avec une attention évidemment aux plus fragiles.
Comment allez-vous défendre ces mesures, sachant qu'a priori, vous serez minoritaire au sein de l'Assemblée et du gouvernement ?
Alors, l'élection n'est pas faite. On a l'ambition, effectivement, avec l'ensemble des candidats de gauche qui souhaitent tourner la page du quinquennat Hollande, de faire entrer un maximum de députés à l'Assemblée nationale, justement pour concurrencer les velléités majoritaires de La République En Marche et de cet attelage qui est plutôt, ma foi, vous en conviendrez, plutôt particulier, qui est un attelage clairement qui a choisi son orientation, qui est clairement libéral, clairement assumé, avec un premier ministre de droite, avec un certain nombre de ministres à des postes stratégiques, notamment budgétaires et économiques, de droite également. Il faut qu'on puisse clairement envoyer un message. Et je pense que les habitants de la circonscription, les Françaises et les Français, savent à quel point les députés communistes ont un bon bilan. D'ailleurs, le député le plus présent à l'Assemblée nationale est un député communiste, André Chassaigne, qui a fait un grand travail lors de la précédente mandature, notamment en luttant contre la loi El Khomri. Ils savent qu'avec nous, ils peuvent compter sur nous, justement, pour être à leur côté, parce que nous n'avons pas de plan de carrière et nous sommes totalement engagés. Donc moi, j'ai envie de dire, les jeux ne sont pas faits. Ce qui comptera, c'est effectivement de donner un maximum de voix aux candidats communistes, dans la lignée de ceux qui ont donné leur voix également à Jean-Luc Mélenchon, mais également à Benoît Hamon, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. C'est des Françaises et des Français qui disaient non, effectivement, il y a une alternative de gauche dans ce pays. C'est ce que nous proposons et nous souhaitons le mettre en avant lors de ces élections.
Comment allez-vous vous positionner par rapport à trois grands chantiers qui s'annoncent assez rapidement dans ce quinquennat, à savoir la moralisation de la vie politique, la loi travail et la transition énergétique? On commence par la moralisation de la vie politique. Est-ce que vous allez voter ce qui est proposé, ce qui sera proposé?
Alors, sur la question de la moralisation politique, je pense que c'est effectivement une véritable attente des Françaises et des Français, une véritable exigence après la campagne déplorable présidentielle que nous avons connue avec la succession des scandales qui ont touché d'ailleurs un certain nombre de camps, hein, notamment à droite et à l'extrême droite. On peut penser à François Fillon ou aux affaires d'emploi du Front National, d'emploi fictif, en tout cas présumé ainsi. Sur la question de la moralisation politique, c'est effectivement une attente des Françaises et des Français, une proposition d'Emmanuel Macron qui, pour l'instant, selon les informations que j'ai, se limite à interdire l'embauche de membres de sa famille, qui exige le fait d'avoir un casier judiciaire vierge.
Ça, c'est une avancée,
mais j'ai envie de dire, c'est un peu le minimum syndical. Je pense qu'on doit aller, pour le coup, beaucoup plus loin. Et j'ai aussi, pour le coup, quelques interrogations quand ce genre de propositions sont portées par un gouvernement où un certain nombre de ses membres ont voté lors de la précédente mandature contre toutes les lois de transparence. C'est un petit peu fort de café. Et puis après, il faut clairement franchir une nouvelle étape dans la moralisation de la vie politique, c'est-à-dire émanciper les politiques des puissances d'argent, lutter justement contre ces conflits d'intérêts. Pour un président qui a été sponsorisé par tous les grands groupes d'assurance, je pense qu'il y a mieux placé pour lutter contre justement ces puissances d'argent.
Qu'est-ce que vous proposerez concrètement ?
Clairement, je pense qu'il faut un véritable, notamment, statut de l'élu pour lutter contre la professionnalisation de la vie politique. Je pense que ça participe justement de cette nouvelle éthique en politique, de pouvoir faire rentrer des députés, notamment, parce que c'est le sujet
du jour. Donc mettre
une
sécurité de l'emploi, d'assurance chômage derrière.
Tout à fait. C'est permettre à un jeune, à un moins jeune, qu'il soit ouvrier, qu'il soit étudiant, qu'il soit chômeur, de pouvoir effectivement assumer un mandat et pouvoir retourner dans la vie active ou assumer, lorsqu'il s'agit de mandats locaux, une activité professionnelle à côté. Au jour d'aujourd'hui, le statut de l'élu est bien trop minimal. Il faut franchir une nouvelle étape. Ça, je pense qu'au-delà des mots, au-delà des affichages politiques, parce qu'il y a beaucoup de communication politique sur ces sujets-là, je pense que c'est quelque chose de très concret. Et puis, moi, je suis élu communiste en termes de moralisation de la vie politique. Il y a une proposition et quelque chose que nous mettons en musique au quotidien, c'est le reversement intégral de nos indemnités d'élus à notre parti politique. Donc, effectivement, nous sommes défrayés lorsque nous avons des frais et que nous perdons du salaire. Mais dans tous les cas, nous reversons l'intégralité de nos indemnités, c'est-à-dire que la plupart de nos élus sont des travailleurs et au quotidien...
C'est votre cas ?
C'est mon cas, je suis salarié. J'ai été aussi salarié dans le privé auparavant, chômeur, aussi étudiant. Et pourtant, mon parti m'a toujours proposé de remplir des responsabilités et de me mettre justement en responsabilité, parce que je pense que c'est aussi le rôle d'une organisation politique de mettre en avant justement des personnes, des personnalités reflets de notre société.
Concernant la loi travail, alors on imagine aisément que vous ferez partie des groupes mobilisés contre pour essayer de freiner un petit peu le mouvement à l'œuvre. Est-ce que vous savez déjà ce que vous aimeriez mettre en place comme action ?
Je sais déjà ce que nous souhaitons mettre en place et puis je sais déjà ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que nous avons connu la mise en œuvre d'une loi travail qui a été un véritable coup d'État institutionnel, la loi de Madame El Khomri, d'ailleurs dont un certain nombre de candidats sur la circonscription ne sait pas trop ce qu'ils en pensaient, même d'ailleurs certains candidats qui se prétendent de gauche. Moi, lorsque les habitants de la circonscription glisseront un bulletin dans l'urne, Robin Salcroix et Isabelle Huchet, effectivement ils auront la certitude d'avoir un opposant à la loi travail qui est passée, parce que je réclame son abrogation, mais aussi un opposant à la loi travail numéro 2, qui souhaite être mise en œuvre par le gouvernement Macron et par le nouveau président de la République. Parce que clairement, c'est l'affaiblissement du code du travail, c'est la dérégularisation des heures supplémentaires, ce qui signifie juste une chose, pour être très concret, c'est travailler plus pour gagner moins, parce qu'il y a moins de majoration sur les heures supplémentaires. Donc à la fin du mois, on gagne moins, c'est ce que nous propose évidemment Emmanuel Macron. Et puis, ces lois travail précédente, cette loi travail El Khomri, et la loi travail numéro 2 qui nous est proposée. C'est un coup d'État institutionnel, je le rappelle, parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée à coup de 49-3, malgré la mobilisation forte des Françaises et des Français, des organisations syndicales et certaines organisations politiques. Et là, M. Emmanuel Macron souhaite enfoncer le clou en appliquant et en souhaitant adopter cette loi travail numéro 2 à coup d'ordonnance. Donc il faut le dire, il faut construire la résistance à ces mauvais coups qui se préparent dès maintenant. À la fois construire la résistance et à la fois faire des propositions. Au Parti communiste français, on souhaite justement, à l'inverse, adopter une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation, justement permettant à chaque salarié, vu les nouvelles pratiques et la mobilité qui existe entre l'emploi, la formation et les périodes entre justement différents types d'emplois, de sécuriser avec un haut niveau d'indemnisation et des grandes possibilités de formation, justement les différentes phases qui jalonnent la vie professionnelle. Et puis, c'est rétablir la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que tous les accords d'entreprise ou de branche ne doivent pas être moins 10 ans que le Code du travail. Le Code du travail doit être le socle qui nous protège et les accords d'entreprise et de branche doivent nous permettre d'aller au-delà, à l'inverse de ce que proposent Emmanuel Macron et le nouveau gouvernement et un certain nombre de candidats sur la circonscription. Le Code du travail n'est pas un pavé qui sert à caler un lit ou une armoire, mais c'est bien justement le bouclier qui est utile aux travailleurs pour justement combattre la loi du plus fort au quotidien. Si on va dans la lignée et dans la droite ligne que nous propose Emmanuel Macron et son nouveau gouvernement, malheureusement, c'est des lendemains qui déchantent. Donc les Françaises et les Français peuvent compter sur les députés et les futurs députés communistes pour combattre ces propositions et justement mettre en avant de véritables alternatives.
Autre question pour laquelle je vous demanderai d'être assez bref en termes de réponse, celle concernant la transition énergétique, l'écologie, avec le dossier très local de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Quelles seraient vos positions sur ce sujet et les mesures que vous souhaiteriez promouvoir? Une minute, s'il vous plaît.
Très rapidement, la problématique du défi climatique est devant nous. Il faut apporter des réponses très concrètes. Moi, j'en ai la conviction réelle, notamment dans ma collectivité, que ce soit à Nantes ou à Nantes Métropole. Nous œuvrons pour le développement à la fois des transports publics, justement la mise en œuvre et le développement des transports publics et des modes doux de transport. Il y a la question aussi très concrète de la mise en œuvre de barges sur la Loire, auxquelles le groupe communiste à la Métropole a œuvré pour justement le transport de marchandises à la fois industriel et économique sur la Loire, ce qui permet d'enlever des centaines de camions, on espère à terme, sur les routes de notre département. Moi, j'estime que justement, on a des actions très concrètes à mettre en œuvre, à l'inverse de ce qu'a fait M. Emmanuel Macron lorsqu'il était en responsabilité. Parce que moi, je veux toujours renvoyer justement les personnes qui aujourd'hui prétendent renouveler la politique à ce qu'ils ont déjà fait. M. Emmanuel Macron a libéralisé le transport public, notamment régional, en mettant des centaines de bus Macron sur les routes, avec les problématiques de sécurité, les problématiques de conditions de travail et la concurrence malheureusement totalement faussée vis-à-vis du transport ferré qui est écologiquement beaucoup plus responsable. Voilà très très rapidement un certain nombre de priorités.
Alors là,
que je
vous étiez dans la dénonciation, ça ne dit pas ce que vous feriez. Et juste notamment sur le dossier de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Sur la question de l'aéroport, alors je ne suis pas trop allé dessus parce que j'ai cru comprendre qu'on allait l'évoquer après. Donc,
Finalement le temps file et les questions sont liées. Voilà. Alors, on les relit.
Très concrètement, je pense qu'il faut justement réinvestir, je l'évoquais sur la question des transports publics, qu'ils soient pour les personnes ou qu'ils soient commerciaux. Et pour cela, il faut justement mettre un terme aux baisses de dotation en direction des collectivités locales. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'on puisse réinvestir dans nos territoires. C'est très concrètement justement aller reprendre l'argent du crédit impôt compétitivité emploi,
CICE.
Le fameux CICE, ce scandale de dizaines de milliards d'euros qui ont été distribués sans aucune conditionnalité aux grands groupes, parce que ça n'a pas bénéficié aux PME, principalement aux grands groupes, justement rediriger ces fonds pour développer un certain nombre de sujets que je viens de vous évoquer. Et puis sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je pense qu'effectivement, les arguments écologiques sont réels. Et puis, les habitants du département ont acté. Il y a eu un choix majoritaire. Quand on prétend être élu de la nation, on se doit au minimum de respecter le choix majoritaire de ses électeurs.
Pour le transfert de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Oui, tout à fait, je suis pour le transfert de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes.
Merci. En conclusion, et là il reste 20 secondes s'il vous plaît, qu'est-ce que vous feriez en tant qu'élu, que député, en faveur du monde associatif, et notamment de la culture.
Le monde associatif et culturel, ce n'est pas une petite question. Moi, je le vois au quotidien dans mon mandat. C'est ce lien justement invisible entre les habitants. C'est aussi des actions très larges et un engagement bénévole de jeunes comme de moins jeunes, justement en direction de la médiation culturelle, en direction du monde associatif en général. Et je pense que c'est très important. Il faut renouveler le soutien au monde associatif. Je pense que c'est relié à la question tout à l'heure de l'investissement dans nos territoires. Nous avons connu des dizaines de milliards de baisses de dotations lors du précédent mandat, un gel des dotations aux collectivités, c'est-à-dire des crédits aux collectivités lors du mandat de Nicolas Sarkozy, et M. Emmanuel Macron souhaite remettre une couche avec une baisse de 30 milliards des dépenses publiques. Les associations, les représentants du monde associatif savent ce que ça signifie, savent à quel point les collectivités sont aussi un moteur de leur soutien et de leur continuité au quotidien, et à quel point les subventions notamment des collectivités sont importantes. Donc je souhaite mettre un terme à cette politique de baisse de dotations, justement pour pouvoir relancer l'investissement et pouvoir relancer notamment le soutien des collectivités au monde associatif.
Merci Robin Salcroix de vous être prêté à l'exercice.
L'intégralité des interviews des 18 candidats aux législatives pour la 3e circonscription de Loire-Atlantique sont à retrouver sur notre site internet jetfm.asso.fr.